Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir Anne Amalric. Anne, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Avec Anne, aujourd'hui, nous allons, comme chaque mois, parler de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et donc, l'association L'Action, non, c'est pas ça?
Oui, c'est ça.
Ah, elle me faisait un drôle de coup d'œil, donc du coup, voilà. Et donc, avec vous, Anne, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'accueil de l'étranger. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ACAT fait ce choix?
Je voudrais dire surtout que si on a choisi ce thème aujourd'hui, c'est parce que c'est un thème d'actualité, ça n'échappera à personne. Et je crois que c'est important que l'on dise comment se situe l'ACAT par rapport à cette question. Alors depuis sa création, les membres de l'ACAT ont écrit, plaidé, manifesté pour que cessent les violences dont les hommes et des femmes sont victimes dans leur pays. Mais est venu un jour où ces personnes qui, dans leur pays, étaient, torturées, maltraitées, ces personnes n'ont plus le choix que de partir. Il fallait fuir, comme ils disent. Et donc, l'ACAT a intégré, ça n'a pas été fait tout à fait au début, a intégré dans sa mission la défense du droit d'asile. Et de plus en plus, cette question du droit d'asile s'est imposée à l'ACAT. Et on verra après comment du droit d'asile, on est passé aussi à un intérêt pour les migrants et comment il faut faire la distinction entre les demandeurs d'asile et les migrants. Voilà. Et alors, pourquoi les demandeurs d'asile ? Notamment au départ, parce que c'est un droit fondamental qui est reconnu à tout être humain. Et que la France, comme d'autres pays, s'est engagée à respecter. Alors je voudrais dire que le respect du droit d'asile chez nous dépend au premier chef des pouvoirs publics français et des instances européennes qui ont la lourde tâche de mettre en place une véritable politique migratoire. Mais cette politique migratoire, elle est un peu défaillante. Et notamment, elle ne tient pas, il faudrait le dire aussi, qu'elle ne tient pas seulement à nos gouvernants. Elle tient à une opinion publique qui s'affole et qui veut fermer ses portes et mettre en place des barrières. Et c'est face à ces tendances de l'opinion publique que l'ACAT invite à agir, résister. Parce que c'est aussi, en tant que citoyen, mais c'est aussi notre devoir en tant que chrétien. Alors à l'ACAT, nous voulons œuvrer pour le droit d'asile, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour l'accueil des migrants dans leur ensemble. Et notamment par rapport à l'attitude, notre attitude et l'attitude en général à l'égard de l'étranger. Alors, d'une façon synthétique, je voudrais dire que l'ACAT appelle ses membres à travailler dans deux directions. D'abord, et ça c'est très très important aujourd'hui, connaître la réalité actuelle des migrations en Europe et en France. Et aussi important, déconstruisons les idées reçues. Ça, c'est très très important. Il est important de récuser avec force ce mensonge que montre l'Europe assiégée par une horde de barbares. On développera cette question plus tard. Et la deuxième direction dans laquelle l'ACAT appelle ses membres à travailler, c'est de nous aider à surmonter la peur de l'étranger pour que nous puissions nous rencontrer et nous découvrir mutuellement. Parce que pour atteindre un retournement de l'opinion publique, il nous faut aussi écouter s'exprimer la peur. La peur de tous les gens que nous rencontrons dans nos églises eux-mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais passer, insister sur l'accueil de l'étranger, qui est une exigence pour les croyants, parce que c'est une question qui est adressée à notre conscience. Et parce que nous, chrétiens, nous affirmons que dans l'Église, nul n'est étranger. Et je voudrais concrétiser en disant que les trois aspects essentiels de notre engagement de chrétien, notamment dans le cadre de l'ACAT, sont premièrement d'entendre les cris de la souffrance de ceux qui se pressent aux frontières de l'Europe et de ceux qui n'y arriveront jamais engloutis par la mer. Deuxième aspect essentiel de notre engagement de chrétien, c'est oser des paroles de résistance. Et ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Et je reviens là-dessus aussi, sur le troisième aspect, rencontrer l'autre dans la confiance. Anne-Marie, vous ?
Oui, vous avez dit un verbe très important, Anne. Vous avez dit que l'étranger, la personne étrangère, car n'oublions pas que sous un vocable un peu générique, il s'agit de personne, ont été à un moment donné obligés de faire le choix de fuir leur pays. Il ne s'agit donc pas de venir pour un séjour touristique. Et il faut absolument travailler sur ces mots pour que nos concitoyens, nos auditeurs, auditrices et nos concitoyens puissent prendre conscience que travailler sur l'accueil de l'étranger demande de rebattre les cartes. Ce sont des personnes qui ont dû faire le choix de fuir leur pays. Et je crois que vous vouliez dire qu'il y a d'autres associations qui œuvrent aussi à vos côtés, chacun ayant des champs de mission complémentaires.
Tout à fait. On évoquera la CIMAD, puisque nous sommes sur une radio protestante et que la CAT est une action chrétienne. Donc la CIMAD qui œuvre très très concrètement pour l'accueil et la défense des étrangers, que ce soit les demandeurs d'asile et les migrants. Donc les demandeurs d'asile dans leur démarche, leur accompagnement, et les migrants aussi dans leur accueil, mais aussi dans leur situation matérielle. Parce que justement, je l'évoquerai tout à l'heure, les demandeurs d'asile et les migrants n'ont pas les mêmes droits. Notamment, je voudrais, alors là peut-être on passe à la distinction entre migrants et réfugiés. Je voudrais rappeler que les réfugiés, ce sont ceux qui sont définis avec précision par le droit international et qui bénéficient d'une protection spécifique dans ce cadre. Ce sont des personnes qui ont franchi la frontière de leur pays aussi parce que celui-ci ne pouvait pas leur offrir de protection. Notamment de protection juridique, ils faisaient l'objet de poursuites, de mauvais traitements. Et leur refuser l'asile aurait pour eux des conséquences potentiellement mortelles. Alors, je voudrais dire que les migrants internationaux, par contre, ils quittent leur pays pour de multiples autres raisons que des persécutions. Notamment, on parlera des migrations économiques, des migrations politiques et tout dernièrement, des migrations climatiques.
Bon. Il y a donc des flux migratoires mixtes et des distinctions entre les situations individuelles qui ne seraient pas faites, Anne, je crois.
Oui, mais pourtant le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, est attentif à ce que la distinction soit maintenue. Car la gommer conduirait à ignorer les besoins spécifiques de la protection des réfugiés, et en particulier, et ça je le rappellerai, donc les réfugiés ont des droits spécifiques, et notamment le droit à rester sur le sol sur lequel ils sont accueillis. Il y a le principe de non-refoulement et de non-expulsion.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que cela implique pour un pays ?
Ça implique que pour un pays qu'il doit accueillir celui qui demande de l'asile politique, qui bien sûr justifie de sa demande, qui doit l'accueillir dans des lieux dignes d'eux, qui doit les aider dans leur démarche, et notamment il doit les aider aussi à, par exemple, il y a le principe de l'unité de la famille, accueillir la famille si besoin est.
Ce qui veut donc dire avoir en place des organisations, qui veut dire accueillir la famille, logement décent, accès à la nourriture, à la scolarité, aux soins, etc.
Tout à fait. Et aussi peut-être confier ses missions à des ONG comme la CIMAD qui s'acquitte de ce travail
De manière très bien. Très satisfaisante, exactement.
Tout à fait, notamment je pense aux demandeurs d'asile, parce que le parcours est très très compliqué, notamment dans les démarches administratives, et la CIMAD aide dans ce sens-là. Et notamment je pense que la CAT a fait aussi ce travail. J'ai le souvenir qu'il y avait quelqu'un à la CAT, qui, parce qu'il y a l'Office français des réfugiés et des Patride, qui accompagnait les personnes qui allaient présenter leur dossier, notamment parce que des fois, elle ne maîtrisait pas bien la langue, elle n'avait pas bien les éléments. On accusait ces gens-là d'arriver avec des arguments qui étaient toujours les mêmes et qui avaient été, qui correspondaient pas à la personne, mais dont on savait que ça pouvait aider à faire avancer le dossier. C'était ça une manière de pas accorder des droits à des gens qui demandaient l'asile politique en France.
D'où l'importance, alors vous avez prononcé le mot de ONG, c'est l'organisation non gouvernementale, et c'est important d'avoir des militants qui, au nom de ce principe de l'unité, du non-refoulement, de l'accueil de la famille et de l'unité de la famille, vont pouvoir accompagner ces personnes. Est-ce que vous pourriez, Anne, nous donner la définition donnée en 1967 du terme de réfugié? Je pense que pour nos auditeurs, ce serait extrêmement important de savoir, parce que souvent on a une idée préconçue là-dessus. Donnez-nous le terme, la définition du terme de réfugié, s'il vous plaît.
Alors d'abord, c'est la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés et son protocole de 1967 qui a défini le terme de réfugié. Ce terme s'applique à une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette personne se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et cette personne ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Voilà la définition.
Voilà. Et vous avez rajouté la définition élargie.
La définition élargie, elle émane du Haut Commissariat aux réfugiés, qui reconnaît aussi comme réfugiés des personnes qui se trouvent hors de leur pays d'origine ou de leur résidence habituelle et ne veulent ou ne peuvent y retourner en raison de menaces graves et qui sont indiscriminées contre leur vie, leur intégrité physique et leur liberté résultant de la violence généralisée ou d'événements troublants gravement l'ordre public. Excusez-moi.
Ce qui est très important là, c'est que vous nous faites prendre conscience, Anne, que vous insistiez tout à l'heure sur la nécessité d'aller à la rencontre de ces personnes. Et effectivement, si dans votre environnement, vous pouvez aller à la rencontre de personnes réfugiées, eh bien vous découvrirez que ce que le grand public, la presse rapide, nous donne au quotidien, ne sont peut-être pas la réalité de ce qui recouvre la vie de ces personnes-là. Nous allons, avec Anne, vous inviter à une pause musicale. Est-ce que vous pouvez, Anne, nous introduire cette pause musicale? Vous avez choisi?
Ah oui, puisque le thème était l'accueil de l'étranger, j'ai pensé à une chanson, parce que c'était il y a très très longtemps, j'avais le souvenir d'une chanson de Dick Rivers qui s'appelait « Toi l'étranger ». Et j'ai pas trouvé autre chose pour parler de l'étranger.
Chemin, toi l'étranger, dans ton cœur tu as gardé de ton vieux pays l'image, mais et dans tes yeux il y a le feu de celui qui croit en Dieu. Bienvenue toi l'étranger. toi l'étranger. Bonne chance, toi l'étranger. Bonne chance, toi l'étranger.
Voilà, nous venons d'écouter cette magnifique chanson de Dick Rivers sur Toi l'étranger. Effectivement, cela nous renvoie à ce que chacun de nous, un jour peut-être, pouvons être étrangers quelque part. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est dit que nous sommes tous étrangers sur cette terre. Anne, vous vouliez rebondir sur les droits de l'homme qui s'appliquent à tous, s'il vous plaît.
Oui, tout à l'heure, j'ai insisté sur les droits des demandeurs d'asile. Mais je voudrais là encore insister sur le fait que les droits de l'homme s'appliquent à tous, et je dis bien à tous, migrants et immigrés. Et que ces droits ne sont pas laissés au bon vouloir de l'État, des États. Il s'applique à toute personne présente sur le territoire d'un État, membre du Conseil de l'Europe, je pense notamment aux États européens. Et l'État doit s'assurer que les citoyens adoptent une attitude respectueuse des droits fondamentaux aux migrants et immigrés, et que leur présence sur le sol soit légale ou non. Je crois que ça, c'est très très important de le répéter. L'État doit s'assurer que les citoyens adoptent une attitude respectueuse des droits fondamentaux aux migrants et émigrés, que leur présence sur le sol soit légale ou non. Parce que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». Et parmi les droits fondamentaux auxquels ont droit ces étrangers qui sont sur notre sol figure le droit à la vie, l'interdiction de la torture et autres peines et traitements inhumains et dégradants. Donc il est impossible d'y déroger, même en temps de guerre. Même en temps de guerre. La liberté de circulation et le protocole numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État, ça c'est pour ceux qui se trouvent en situation régulière, a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. Et les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. » Vous voyez qu'il y a quand même des droits qui sont importants et je crois qu'on ignore très souvent, et notamment l'opinion publique, excusez-moi, j'en fais partie, ignore.
Intéressant, Anne, de nous avoir fait prendre conscience qu'il y avait un contexte légal en France, en Europe et au niveau international. La question sur le plan purement, je dirais, citoyen, se pose donc de l'accueil de l'étranger et de la protection de l'étranger avec tout ce que les droits humains lui donnent accès. Mais nos contemporains et nos auditeurs pourraient très bien vous dire, Anne, mais si je suis agressée dans le tram par quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui, à mon avis, pourrait être un étranger, est-ce que tout ce que vous venez de me dire, et qui est très beau, certes, je peux le croire, je peux en faire une base de réflexion pour peut-être changer mon regard sur l'étranger, quand je suis touchée dans ma chair, ou mes êtres ou mes proches seraient touchés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que, d'abord, pourquoi on stigmatiserait l'étranger qui se rend coupable de ses actes ? Je pense qu'il faut déconstruire le mythe de la délinquance associée aux étrangers. On entend souvent dire que les étrangers sont à l'origine de la délinquance et de la criminalité en France. Il faut dénoncer cette pseudo-vérité en rappelant les chiffres. Bon, c'est pas pour excuser ces exactions qui sont commises, mais enfin bon. Sur les 500 000 condamnations prononcées chaque année au pénal par les juridictions françaises, 75 000 environ, soit à peine 15%, concernent des étrangers. 85% sont le fait de personnes possédant la nationalité française. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Et notamment, y a ce mythe de la délinquance associée aux étrangers, c'est notamment parce qu'on pratique, il y a une pratique qui est fréquemment répandue, c'est celle du contrôle au faciès qui aboutit à deux fois plus d'enquêtes et d'interpellations chez les personnes racisées. Et puis, il y a aussi l'impossibilité de travailler qui est imposée aux migrants, notamment durant la période d'examen de leur demande d'asile. Vous vous rendez compte ? Voilà. Et l'impossibilité de travailler imposée aux migrants qui les conduit à subvenir à leurs besoins au moyen de procédés illégaux, vente à la sauvette, vol, travail au noir.
Voilà, donc
mais oui, je voudrais quand même,
bien sûr.
Vous avez souligné le fait qu'il y avait des étrangers qui étaient à l'origine d'actes de délinquance ou de criminalité. Je voudrais quand même aussi rappeler qu'il y a des étrangers qui peuvent aussi devenir de véritables héros et en intervenant pour sauver ou protéger des Français. Et je voudrais notamment donner le cas de Mahmoud Diallo, un migrant guinéen, qui a sauvé plusieurs vies en maîtrisant un agresseur au couteau à Autran, en Isère. Et 4 ans après cet acte de bravoure, il devient français grâce à une extraordinaire chaîne de solidarité. Je trouve ça magnifique. Et aussi, Lassa Batili, le héros de l'hypercachère, qui avait mis à l'abri plusieurs clients lors de la prise d'otages sanglante de janvier 2015. Et aussi, plus récemment, un migrant syrien qui a neutralisé un agresseur en Allemagne en dirigeant son véhicule sur lui.
Du coup, nous pourrions peut-être inviter nos auditeurs, auditrices et plus largement la population française à peut-être se poser plutôt cette question.
Oui, plutôt que de stigmatiser une supposée absence de volonté d'intégration, interrogeons-nous sur la qualité de notre propos. Pour volonté d'intégration. Au niveau individuel, que faisons-nous concrètement pour rencontrer l'étranger et échanger avec lui ? Quel pont, quelle passerelle pouvons-nous construire ?
Mais, oui, allez-y.
Et je continue. Et sur le plan plus général, notre politique de la ville et du logement est-elle adaptée à une véritable intégration sociale, mettant fin notamment à cette logique de zone de concentration ?
Oui, merci beaucoup pour ces précisions. Par un petit jingle que Stéphane, et que je remercie déjà, va nous passer, nous allons introduire l'appel du mois.
Oui, mais avant, est-ce que je pourrais lire... Non, c'est trop tard. Lire un texte...
Voilà, eh bien, lisez-nous ce texte, Anne, et puis nous aurons le jingle après.
Qui est l'œuvre d'un philosophe et théologien musulman du XIIIe siècle. Déjà, il y avait la question... Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour les gazelles et abbaye pour les moines. Il est temple pour idoles et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est dans les tables de la Torah, il est aussi les feuillets du Coran. Je crois en la religion de l'amour, où que se dirigent les caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. Voilà, je tenais à lire ça pour dire que nous, chrétiens, notre cœur est capable d'accueillir les étrangers, quels qu'ils soient.
Et c'est un poème du XIIIe siècle.
Du XIIIe siècle.
Merci Anne. Par le jingle que Stéphane va vous passer, nous allons introduire ce qui sera chaque mois régulier dans notre émission de la CAT, l'appel du mois.
Alors ce mois-ci, et j'espère que c'est encore possible, parce que c'est la CAT agit par rapport à une militante kurde des droits de l'homme qui risque d'être exécutée de façon imminente. C'est l'exécution de Pashan Azizi, c'est une militante kurde des droits humains en Iran. Et je dois souligner que son arrestation... qui date de 2024, elle est non pas liée à des actes de rébellion armée contre l'État, mais à ses actions pacifiques en faveur des droits humains, notamment son soutien aux victimes de conflits. Cette militante kurde des droits de l'homme, elle a été condamnée à mort en juillet 2024 pour rébellion armée contre l'État. Et en fait, je dis qu'il n'y a pas eu rébellion armée contre l'État. sur la base d'aveux qui ont été extorqués sous la torture. Et son appel a été rejeté par la Cour suprême le 25 janvier dernier. Donc c'est très récent et elle risque d'être exécutée à tout moment. C'est pour cela que la CAT invite ses membres, mais aussi toute personne. Et on vous indiquera le site internet sur lequel vous pouvez lire la lettre que la CAT demande d'adresser à son Excellence Monsieur Massoud Pezeghian, qui est le président de la République islamique d'Iran. Dans la lettre adressée au président de la République islamique, il lui est demandé de donner des instructions fermes pour libérer sans condition Fashan Azizi, d'abandonner les charges obtenues sous la torture, et ça c'est très très important, de garantir ses droits en tant que personne détenue, y compris l'accès aux soins et un procès équitable. Nous demandons aussi que soit assurée son intégrité physique et psychologique en lui permettant d'accéder aux soins nécessaires et de traduire en justice toute personne responsable de torture à son égard, puisque nous le rappelons, ses aveux ont été obtenus à partir d'actes de torture. Voilà. Donc je vous demande d'être nombreux à aller sur le site. Alors le site c'est en minuscule et en attaché a4france.fr et sur ce site vous allez sur la partie nos mobilisations. Voilà. Et je crois que c'est très très important que nous nous mobilisions et j'espère qu'il n'est pas trop tard. J'ai regardé sur internet hier s'il n'y avait rien eu de nouveau. Il n'y a rien eu de nouveau, donc vous pouvez écrire, mais vous vous manifestez, mais faites-le très rapidement. Les actions que nous menons avec vous au quotidien permettent de changer des vies. Et pour la vie de chacun, nous pouvons tous agir.
Merci beaucoup Anne. En résumé de cette émission que nous venons d'avoir avec vous aujourd'hui, je crois qu'il est important de rappeler sur l'accueil de l'étranger une des actions que l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture mène, est importante puisque à peine plus de 7% de la population vivent sur notre sol. Il est donc faux de dire qu'ils constituent une menace. Il ne constitue pas une menace. Et il est important de rappeler que sans les étrangers, de nombreux services, de nombreux chefs d'entreprise, mais aussi des hôpitaux, disent que sans les étrangers et certains étrangers, un nombre important de services ne pourrait pas fonctionner. Donc c'est important, autant sur le plan citoyen que sur le plan chrétien, si nous sommes chrétiens, de pouvoir peut-être retravailler sur nos peurs, pour à partir de ça, ouvrir notre cœur, mais aussi notre esprit, pour travailler à l'intégration des personnes étrangères. Et je voudrais rappeler ACAT France, donc, ACATFRANCE en minuscule.fr, nos mobilisations. Je voudrais remercier Stéphane à la régie et remercier Anne pour cette émission. Merci à vous.
Mais aussi Anne-Marie.